des Amours malades, chapitre 17. Médée rentrait avec le chariot des médicaments après avoir effectué l'habituelle distribution du matin. Il nous salua, puis commença à remplacer les boîtes vides en prenant les pleines de l'armoire à pharmacie. Pendant que Micha et moi nous préparions un café, Médée m'expliqua qu'un patient avait de grandes difficultés à avaler les comprimés prescrits et qu'il serait préférable de les substituer par des gouttes, du sirop ou des injections. Je hochai la tête et n'attendis pas la visite pour modifier le traitement. Je montrai à l'infirmier le dossier que j'avais corrigé et lui illustrai les changements. Il acquiesça et me remercia. Maïté entra alors dans une envolée de jupes. « Bonjour tout le monde » lança-t-elle à la cantonade. Mon bonjour s'arrêta au fond de la gorge, alors que celui de Michael fusa de façon automatique. « Vous m'avez laissé du café, j'espère ?» Elle prit une tasse dans le petit meuble sur lequel était posé le percolateur, la plaça sous le bec et prépara la boisson. Je regardai mon assistant avec un air scandalisé qui lui fit hausser les épaules. Je cherchai un peu de soutien dans les yeux de Mehdi, qui rougit et replongea dans ses pilules. Maïté, contrairement à son habitude, portait ce qui devait être une ample jupe multicolore qui balayait pratiquement le sol et qui, coincée sous sa blouse, formait une espèce de cloche à partir des genoux. Mais le tissu supplémentaire dont elle avait gratifié sa crinoline faisait complètement défaut au niveau du chandail. Ce dernier, d'une fine maille rouge vif, ne permettait pas à l'imagination de divaguer. Il offrait à la vue de tous une généreuse portion de l'opulente gorge dorée. Je dois avouer à ma grande honte que lorsqu'elle s'était penchée pour choisir une tasse, j'avais aperçu la dentelle du soutien-gorge. Je devais absolument lui parler. Elle ne pouvait pas continuer à s'habiller de manière aussi voyante, mais surtout aussi peu adaptée aux circonstances. J'étais le premier à apprécier les beaux vêtements et les mises originales, mais je tenais par-dessus tout au respect des malades. Je ne sais si l'interne n'avait pas perçu nos réactions, ou nos regards, ou si elle s'en moquait, mais le fait est qu'elle dégusta son café tout en bavardant gaiement. Son rouge à lèvres aussi écarlate que son pull tatoua la tasse d'un large demi-cercle et ses ongles, sur la serviette en papier, me firent l'effet de taches sanglantes. Madame Godin arriva énervée comme à son habitude par je ne sais quel tracas administratif et laissa choir bruyamment une liasse de papier sur le bureau en soupirant. Son soupir mourut à la vue de Mademoiselle Souala. Elle détourna précipitamment son regard offusqué et chercha le mien. Je ne lui donnais pas le plaisir de me voir en accord avec elle et évitais ses yeux. C'était de l'enfantillage de ma part, mais cette femme me tapait sur les nerfs. Une bureaucrate incapable de déceler les besoins de son personnel et encore moins ceux des malades. J'en avais discuté souvent avec le patron, mais Madame Godin devait avoir des amis en haut lieu, car il était impossible de la déceler de son piédestal. Comme Michael rentrait de 3 jours de maladie, j'avais décidé que nous ferions le tour tous ensemble afin de le mettre au courant des changements. Julia aurait certes été capable d'exposer les nouveaux problèmes, mais sachant combien Michael l'intimidait, j'avais peur qu'elle ne passe un temps fou à répondre à toutes ces questions. Je connaissais Michael autant que je connaissais Julia, il aimait rire et plaisanter, mais quand il était devant un malade qu'il n'avait jamais vu, il voulait savoir tellement de choses et prétendait des réponses tellement précises que Julia, intimidée par lui comme elle l'était, aurait passé la matinée à lui présenter les nouveaux cas. Je les laissais travailler volontiers ensemble car ils formaient une équipe excellente, mais aujourd'hui nous n'avions pas le temps pour les états d'âme. Élisabeth Tailleur entra à son tour dans la pièce, cligna de l'œil à Michael, en se disant très heureuse qu'il soit guéri, puis tomba elle aussi en arrêt devant le buste de notre malgache. « Splendide ce pull! Où l'as-tu acheté ?» Maïté se faisait tutoyer par le personnel. Cela m'était égal tant que cela n'avait pas lieu devant les malades. J'étais sans doute un peu vieux jeu, mais j'étais très attachée à la forme. « À Rouen, chez Hubert ou quelque chose comme ça. »« Hubert, oui, je connais. » « Vous n'avez pas l'intention d'acheter le même ?» s'écria instinctivement Madame Godin. Je ne voyais pas bien de quoi elle se préoccupait, car les infirmières portaient toute une tunique. Mademoiselle Tailleur n'aurait pas mis les perfusions à 2 minutes. « Ne vous inquiétez pas, Madame Godin, je suis certain qu'Élisabeth choisirait une autre couleur. Nous savons que les femmes n'aiment pas porter les mêmes vêtements, » la consola Michael très sérieusement. L'infirmière éclata de rire et la surveillante décocha un regard assassin à l'assistant. Sur ces entrefaites, Julia arriva essoufflée, ses courts cheveux blonds en bataille, la blouse fripée comme d'habitude. Elle tira d'une main sur son col roulé comme s'il l'empêchait de respirer. Dans l'autre main, une pile de lettres que je lui avais demandé de rédiger rapidement car elle était en retard dans son courrier. Elle avait dû y passer la nuit. Je m'en voulais, elle paraissait épuisée. « Excusez mon retard, ma fille était malade cette nuit. Elle a de la fièvre et elle a vomi sur mon pantalon ce matin. » Tout le monde baissa les yeux. Julia s'était changée, Les yeux soulagés remontèrent. J'allais donner le signal du départ quand Julia s'aperçut de la mise de sa collègue et laissa échapper en même temps qu'un « oh » interdit les lettres qu'elle tenait. Elle s'agenouilla brusquement alors que je me penchais pour l'aider. « Qu'en dites-vous » murmurai-je. « Osé, provoquant, létal » rétorqua-t-elle sans rire. Je tombai sur les genoux, pris d'un fou rire que j'endiguai avec difficulté. Je me relevai et tendis à Julia les feuillets que j'avais recueillis. Ma colère était tombée, mais Maïté aurait tout de même droit à un petit discours. La visite se poursuivait sans encombre quand nous arrivâmes dans une chambre occupée par une étudiante bien connue du service, Lucette, et par une patiente que nous n'avions pas encore vue. Il était difficile de lui donner un âge. Sa silhouette, serrée dans un pyjama moulant, pouvait être celle d'une jeune de 30 ans. Elle était mince et son sein était haut et ferme. Ses cheveux étaient teints d'un blond cendré, son visage disparaissait sous un pansement voyant. On aurait dit l'une de ces vieilles gravures d'autrefois qui montraient les clients malheureux des dentistes de foire. Je regardais ses mains. Celles-ci ne mentaient pas. Elles étaient chiffonnées et de larges taches brunes s'y étalaient. Elle avait au moins 60 ans, ce que me confirma son dossier. 65 ans. Je connaissais son histoire et l'on m'avait dit son nom sans me préciser l'âge. Le chirurgien esthétique qui l'avait opéré n'avait pas eu le courage de m'appeler et c'était l'un de ses assistants qui l'avait fait à sa place. Marie Dernan avait subi un lifting une semaine auparavant. Elle était rentrée chez elle et les problèmes avaient commencé. Une intolérance au fil utilisé pour la recoudre avait provoqué un rejet avec une irritation qui s'était infectée. Madame Dernan avait refusé de retourner dans la clinique qui l'avait accueillie. Elle avait porté plainte contre son chirurgien et avait atterri en dermatologie. De là, elle était passée en chirurgie générale, qui l'avait gardée 2 jours, et qui ne voyait pas la nécessité d'occuper un de ses nobles lits pour une pareille broutille. Il fallait pourtant bien continuer la thérapie antibiotique et refaire les pansements. Ou l'envoyer, mais chez le doux, bien entendu. Marie Dernan était le genre de malade que l'on a envie de passer par la fenêtre dès qu'on le rencontre. Plutôt qu'à l'hôpital, elle imagine se trouver dans un hôtel de luxe, où elle devait être servie au seul claquement de ses doigts. Elle exigea que son pansement fût fait par un médecin, ce que je refusai. Elle se plaignit de son voisinage et demanda qu'on la chargeât de chambre. Au grand dam de la surveillante, j'acceptai que l'on déplaçât Madame Dernan et suggérai qu'on la transférât auprès de la baronne de Longenay. La baronne était une petite vieille complètement sénile qui crachait par terre et racontait sa vie avec une voix criarde sans jamais prendre le temps de reprendre son souffle. Madame Dernan s'était plainte de devoir côtoyer une femme comme Lucette. Elle jouirait de la présence d'une baronne. Je n'étais pas vraiment fière de ce que j'avais fait. Mais les gens comme Madame Dernan doivent à un certain moment de leur existence prendre conscience du monde qui les entoure. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Dans certains cas, elle redonne la vie. Dans d'autres, elle n'est qu'un moyen pour cacher de sérieux problèmes psychologiques. En ce qui concernait Madame Dernan, je n'avais aucun doute. Cette femme était convaincue d'avoir la faculté de plier les gens ainsi que la nature à son bon vouloir et que rien ne pouvait l'en empêcher. Son corps ne lui plaisait plus, elle le changeait. Sa voisine était désagréable, elle la changeait. Marie Dernan devait apprendre à vivre les difficultés, pas à les éluder. Qui sait si la baronne lui aurait fait comprendre qu'à un certain moment, nous devons accepter ce que nous sommes, car plus personne ne peut plus rien changer pour nous, ou tout au moins devons nous affronter ces difficultés avec nos propres forces et ne pas attendre que quelqu'un se présente avec une baguette magique. J'en arrivais à me demander si j'avais su moi-même appliquer ce genre de philosophie. Avais-je affronté les problèmes ? N'avais-je pas plutôt prétendu qu'il n'existait aucune autre solution que celle que j'avais trouvée, et avec cette excuse, n'avais-je pas cessé de chercher un autre moyen pour résoudre mes problèmes? Mais y avait-il réellement une autre façon de les affronter? Et si je la découvrais à présent, cela ne voudrait-il pas dire que je m'étais trompée pendant 20 ans? J'eus soudain l'envie de fuir. Je ne voulais plus rien raconter, plus rien revivre. Contrairement à Madame Dernan, je ne voulais rien changer. Ce qui avait été. Il était trop tard. C'était trop douloureux. Je devais remettre en question beaucoup trop de moi-même et de ma vie. Je n'en avais ni la force, ni le courage. Je voulais de nouveau me laisser glisser dans cette torpeur angoissante, certes, mais connue où je survivais. Me mouvoir équivalait à risquer de me faire du mal ou d'en faire aux autres. Je ne m'en sentais pas capable. « Docteur Mouret ?» Michael me toucha le bras et paraissait soucieux. « Tout va bien ?»« Pardon ?»« Oh oui, oui, tout va bien, » sursautai-je au sortir de ma transe. « Nous avons terminé, n'est-ce pas? Merci à tous. Maïté, j'aimerais te parler. 14h30 dans mon bureau. Bon appétit. » Je n'attendis pas la réponse et enfilai le couloir, Michael sur mes talons. Une fois dans notre bureau, j'allais m'asperger le visage et bus à même le robinet. Matinée intéressante. Vous avez fait du beau travail pendant que j'étais malade. Nouveau patient de choix. C'était Renan et la crème de la crème. Certes, le chirurgien qui l'a arrangé de cette façon mérite une semonce, mais elle sera divinement avec la baronne. Je ne te croyais pas si impitoyable. Tu penses que j'étais trop dure? Demandai-je pendant que je m'essuyais la face avec des serviettes en papier. Pas du tout. Micha s'approcha et me caressa une joue. Qu'as-tu? Tu es tendue comme une corde de violon? Je n'ai pas envie de discuter avec le docteur Swala, avouai-je. Mais je dois le faire. Tu as l'habitude d'annoncer des diagnostics épouvantables et tu te préoccupes pour si peu? C'est différent. Tu t'en sortiras. Alexandre, à quoi pensais-tu il y a 10 minutes? Comme je le taisais, Michael ébouriffa mes cheveux, m'embrassa mais n'insista pas. Je t'accompagne au self. Je pris une pomme et une banane que je mangeais avec application pendant que Michael se dédiait à un couscous. Je n'avais pas envie de converser et Michael respecta mon silence. Je me sentis bien auprès de lui et n'éprouvais pas le besoin de remplir le silence avec des bavardages. Comme dessert, Micha avait choisi un éclair au chocolat. Il le coupa en deux et m'en tendit une moitié. Je le regardais se débattre avec la crème qu'il avait fait gicler en mordant trop fort dans la friandise. Elle lui coula sur le menton. Je tendis une main au travers de la table et recueillis de l'index ce qui allait tomber sur la chemise kaki que Michael portait ce jour-là. Sans y penser, je portai mon index à ma bouche et le suçai. Micha me regarda avec surprise. Je rougis violemment. Si quelqu'un nous avait vus. Mais il était tard et nous étions cachés par un immense ficus vert pâle et blanc qui tendait ses branches devant notre table. Pour me donner une contenance, je me mis à avaler ma moitié d'éclair. Micha avait fini le sien et allait s'essuyer avec le carré de papier aux armes de l'hôpital, mais il interrompit son geste. « Tu préfères peut-être le faire toi-même » murmura-t-il avec une voix qui chamboula mes sens. Je secouai la tête. « Dommage. »« Micha. »« Hum ? » « Je suis désolée. »« Mais il n'y a vraiment pas de quoi. On peut recommencer quand tu veux, ailleurs si possible, mais quand tu veux. Ta moitié était bonne au moins. » Nous rentrâmes dans le service aussi silencieux qu'à table. Ma tête éclatait. Maïté arriva avec un quart d'heure de retard, ce qui augmenta mon malaise et ma mauvaise humeur. Elle ne présenta aucune excuse et je ne lui en demandai pas. « Je vous laisse, » proposa Michael en seulement. J'avais souhaité sa présence, mais sermonner un subalterne devant une tierce personne n'est certes pas un acte recommandé. « Pourquoi ?» fit l'interne. « Tu as l'intention de me passer un savon, voulait-elle savoir ?»« Ah, si c'est ainsi, je préfère avoir un témoin. » Même si je suis certaine que vos deux voix couvriraient la mienne au cas où je devrais protester ici ou ailleurs. Son ton était à la badinerie, mais elle venait de nous faire savoir ce qu'elle pensait de notre intégrité morale. Je ne sais pas encore s'il s'agira ou non d'un savon, mais nous commençons très mal, déclarai-je froidement. Je n'apprécie pas particulièrement qu'on mette mon honnêteté en doute, pas plus que celle du docteur Conrad. Je te prierai de bannir ce genre de commentaires. Étant donné que tu ne t'embarrasses pas de scrupules, je n'en userai pas non plus. Michael, reste avec nous, s'il te plaît. L'assistant se rassit. J'avais deux choses à te dire. La première concerne le travail, la seconde est un peu plus personnelle. Tu as une bonne préparation, d'excellentes capacités déductives, que tu gâches parfois par l'envie que tu as d'arriver trop vite au diagnostic, mais c'est un péché de jeunesse. Ce que je voudrais que tu développes, par contre, ce sont tes capacités humaines. Je sais que chacun de nous a sa propre façon d'affronter les malades et la maladie, mais la tienne est décidément trop superficielle. Voudrais-tu que je psychanalyse chaque patient? Entre une séance de psychanalyse et un peu de gentillesse et de compassion, il y a de la marge. Il existe un terme, empathie. J'espère que tu le connais. Dans le cas contraire, regarde dans le dictionnaire. Ce que je te demande, c'est de te mettre à la place de tes malades et de comprendre ce dont ils ont besoin, outre tes prescriptions médicales. Je ne te reprocherai jamais de terminer ta visite en retard parce que tu as discuté pendant un quart d'heure avec un patient qui en avait besoin. De ce train, je pourrais finir à minuit. Tu apprendras à doser. Je ne veux pas que tu te mettes à pleurer avec eux sur leur misère. Je veux que tu saisisses leur angoisse et que tu essaies de l'apaiser. Je veux que tu découvres tout ce qui pourrait ralentir leur guérison. Je veux que lorsque tu t'en iras d'ici, tu sois capable d'accompagner un mourant jusqu'au bout sans fermer la porte de sa chambre en attendant que ça arrive. Ces capacités ne sont pas innées. Tout dépend énormément de la sensibilité de chacun, mais certaines choses peuvent s'apprendre. Michael a beaucoup de matériel sur le sujet vu sa spécialité. Il se fera un plaisir de t'indiquer ce que tu devrais lire. Dans quelques semaines, tu tourneras avec lui et il t'en apprendra plus que moi. « Comme tu veux, » répondit Maïté avec un haussement d'épaule qui me donna envie de la gifler. « Le second problème que je voudrais aborder est celui de ton habillement. »«
Pardon ? » ?»«
Je crains que ta façon de te vêtir soit peu adaptée au lieu où nous nous trouvons. » La jeune femme n'avait pas remis sa blouse après le repas. Elle passa une main sur son fameux pull rouge et me dévisagea incertaine. Ce décolleté, même s'il est magnifique, n'est pas de circonstance, pas plus que la jupe que tu portais ces jours-ci. Tu plaisantes? Absolument pas. Tu es d'accord avec lui? Demanda l'interne indigné en regardant Michael. Je n'ai pas besoin de l'approbation du docteur Conrad, fis-je prestement. C'est moi qui te demande d'adapter tes tenues au service, pas lui. C'est un ordre? Pourquoi le prends-tu de cette façon? Soupirai-je. J'avais espéré que tu comprendrais le sens de ma requête sans qu'il y ait besoin d'en faire un drame. Je me suis toujours vêtue de cette manière? Qu'est-ce que tu sous-entends avec ta requête, comme tu dis? Que je suis une pute? Que je ne mérite pas ma place ici si je ne me soumets pas à vos critères de bourgeois constipé? Docteur, sois là. Quoi, docteur, sois là? Je fais mon travail convenablement, tu l'as dit toi-même. Le reste ne te regarde pas. Je ne fais d'avance à personne, et mon comportement est correct. Alors je m'habillerai comme je veux. Maïté s'était levée et s'était approchée de moi. Que prétends-tu de moi? Que je t'imite, toi et tes costumes ultra chics qui te font sembler un croque-mort, ou que je me couvre de la tête aux pieds comme le patron? Si elle n'ose pas se montrer, c'est son affaire. Moi, je n'ai pas honte de mon corps. Ça suffit, explosai-je. Les insultes portées à Hélène me blessèrent beaucoup plus que celles qui m'étaient adressées. Je me levai à mon tour. Le visage de Maïté, à quelques centimètres du mien, me défiait. J'aurais voulu continuer cette conversation en expliquant à l'interne que son habillement me plaisait énormément, qu'elle se méprenait totalement sur mes motivations et que je lui demandais seulement un peu plus de discrétion. Mais son regard, rempli d'un défi haineux, me décontenança. Il me projeta des années en arrière, quand j'affrontais ce même regard, ou plus exactement, quand je baissais les yeux pour ne pas avoir à l'affronter. Comme je m'étais habituée à le faire, je détournai la tête. Je me dirigeai vers la fenêtre et fixai le parking. Pour moi, la conversation était terminée. L'étudiante s'habillerait comme elle voudrait, et je ne reviendrai pas sur la question. J'entendis Michael dire à Maïté que ce serait tout pour aujourd'hui et qu'elle pouvait sortir. Peut-être qu'elle a raison, tout compte fait, murmurai-je. Tant qu'elle fait son travail comme il se doit, pourquoi devrais-je lui casser les pieds? J'entendis les roulettes de fauteuil de Michael crisser sur le lino, puis je sentis ses mains sur mes épaules. Il m'obligea à me retourner. Je le fis en tenant la tête basse. Il me mit alors un doigt sous le menton et me contraignit à le regarder. Elle a tort, elle le sait, et toi aussi. L'excuser ne sert à rien. Elle n'a fait de mal à personne. Si, à toi. Je m'agitai et voulus m'éloigner de Michael, mais il me retint en augmentant sa prise sur mes épaules. Alexandre, tu as déjà donné trop d'absolution dans le passé, et cela t'a détruit. Tu dois regarder les choses en face à présent. Tes raisons peuvent être aussi valables que celles des autres, et tu as le droit de les défendre. Tu as le droit de te défendre. Je savais pertinemment ce à quoi Michael faisait allusion. Il connaissait mon histoire à présent, et pouvait faire des rapprochements entre mes comportements passés et actuels. Ma femme avait des excuses elle aussi, tu ne peux pas dire le contraire. « Oh, Alexandre !» chuchota Micha découragé. « Personne n'a d'excuses suffisamment valables pour faire vivre à quelqu'un ce que ta femme t'a fait vivre. Tu n'y étais pas, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas comprendre, protestai-je. « Non, je ne peux pas savoir, Alexandre, c'est vrai. Mais un jour, toi, tu devras comprendre ce que tu as réellement vécu et les conséquences que cela a encore sur ta vie. « Pas aujourd'hui, pas maintenant, suppliai-je. J'ai tout raconté, cela suffit, je ne veux pas disséquer, je ne veux pas comprendre, c'est fini. Tout est fini, je ne veux plus en parler, j'oublierai. Si tout était fini, tu aurais su comment t'adresser à Maïté. Au lieu de cela, tu l'as laissé partir sans régler le problème. Un jour ou l'autre, tu devras accepter de disséquer, comme tu l'as si bien dit, pour pouvoir vraiment commencer à oublier, si tant est que tu puisses jamais oublier. Tout cela est au-dessus de mes forces. Je te le ferai venir, ces forces, tu peux me croire. Nous pourrions commencer par aller faire un peu de shopping à Lyon et t'acheter de quoi remplacer tes costumes de croque-mort. Armani, Versace, tes costumes de croque-mort, allais-je soulagé de la diversion. Tu as raison, elles sont splendides et te montent à merveille, mais une paire de jeans quand je t'invite à sortir. J'en ai des jeans. Cora, Intermarché. Dolce Gabbana, dus-je confesser. Je t'adore. Les mains de Micha quittèrent finalement mes épaules pour entourer mon visage, puis il l'attira à lui et me décocha un sonore baiser sur la bouche. C'est cet instant que choisit le patron pour pénétrer dans le bureau. Elle avait très certainement frappé, mais trop occupée par notre discussion, nous n'avions pas entendu. Nous nous séparâmes brusquement et restâmes tous deux bras ballants à observer la réaction d'Hélène Ledoux. Mon visage brûlait. Celui de Michael était étrangement impassible. Quant à celui de notre chef de service, il s'était vidé de toutes ses couleurs. « Je suis navrée. » Elle tout sauta et s'éclaircit la voix. « J'ai frappé, mais... « Je désirais parler avec vous, mourais-je. Je peux revenir, » ajouta-t-elle. « Mais pas du tout. Je vous laisse, » déclara Michael. Il alla vers la porte, s'effaça pour laisser entrer Hélène qui était demeurée sur le seuil, puis sortit. Le patron et moi gardâmes un silence embarrassé pendant quelques secondes, puis je me décidai à parler. « Vous aviez besoin de moi ?»« C'est au sujet de Mademoiselle Swala. Elle vient de me demander de la faire travailler en équipe avec Conrad, car, m'a-t-elle dit, vous avez des problèmes de communication. » « On peut appeler ça ainsi, oui. » Maïté n'avait pas perdu de temps. « Cela m'ennuie beaucoup que vous ne parveniez pas à vous entendre avec elle. Elle semble avoir conquis tout le personnel. »« Je suppose que tout est de ma faute. J'ai des problèmes avec les psychiatres, avec les malades du genre de Madame Dernan. Je laisse mes patients se suicider dans mon service. »« Cessez, je voulais martyrs, mourrez !» Jamais le ton du patron n'avait été aussi cinglant. « Au moins n'avez-vous pas de problème avec votre assistant ?» Il fallait bien que l'accès crève. Je ne répondis rien. Qu'aurais-je pu dire, d'ailleurs? Je ne savais pas à quoi Micha et moi jouions exactement. Ce n'était pas pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. À Hélène, moins de quiconque. Cette femme me plaisait beaucoup. J'aurais aimé ne jamais la décevoir. J'aurais voulu qu'elle soit fière de moi comme j'étais fière d'elle. Les critiques que lui avait lancées l'interne m'avaient fait mal. Je trouvais le patron séduisant, malgré ses kilos en plus. Il lui donnait une douceur qui me touchait profondément. Je n'avais pas le droit de dire une chose pareille, s'excusa-t-elle en rougissant. J'espère que vous me pardonnez. Ne vous inquiétez pas pour cela, fis-je sans préciser si je parlais de ce qu'elle avait dit ou de ce qu'elle avait surpris. Pour ce qui est de Maïté, j'aimerais vous demander une faveur. D'ordinaire, je n'aurais pas cédé si facilement devant les états d'âme d'une interne à peine arrivée, mais je suis terriblement éprouvée et je n'ai pas envie de devoir batailler avec Swala pour un oui ou pour un non. Rendez-moi couturier et Mikaela essaiera de dompter la belle malgache. Nous ferons comme cela, si c'est ce que vous préférez. « Alexandre, avez-vous des problèmes de santé? Des ennuis dans votre famille? Avez-vous besoin d'aide? J'apprécie votre attention, mais je m'en sortirai tout seul. » Hélène vint jusqu'à moi et me posa une main sur le bras. « Je tiens à vous. Même si vous vous comportez parfois comme l'ogre de la fable, sachez-le. N'hésitez pas, surtout si vous pensez que je peux quelque chose pour vous. D'accord? Vous n'oublierez pas. » Je vous remercie beaucoup, je n'oublierai pas. J'étais émue outre mesure par cette marque d'intérêt. Et j'aurais voulu serrer Hélène dans mes bras pour la remercier. Je me mis à imaginer ma tête appuyée sur son sein tendre et opulent, et une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps m'envahit. Je rougis de mes pensées et secouai la tête. D'abord le baiser de Micha, puis mes fantasmes à propos du patron. Alexandre, j'oubliais. Un ami qui dirige le service production du laboratoire G m'a donné des invitations pour un dîner dansant. Demain soir, tenez. Elle sortit de sa poche de carton au logo du laboratoire. Le repas avait lieu dans un hôtel somptueux de Roanne. Une soirée mondaine n'était certes pas ce qu'il me fallait pour le moment, mais j'aurais donné un carton d'invitation à Michael. « Vous pensez venir ?» me demanda Hélène. J'ai l'impression que dans sa voix perçait une pointe d'espoir. « Je ne crois pas, non, mais Conrad se fera un plaisir de s'y rendre, j'en suis sûre. » J'appelais rarement Michael par son nom de famille, mais j'éprouvais le besoin de démontrer au patron que ce qu'elle avait surpris n'était somme toute pas si sérieux. « Vous n'aimez pas les mondanités ?» J'avais passé ma vie au milieu de mondanité. Enfiler un smoking et me rendre à une soirée était devenu au cours de ma vie d'homme marié une seconde nature. Le problème est qu'il s'agissait d'un dîner et que jamais je n'aurais réussi à ingurgiter quoi que ce fût. En outre, je n'avais aucune envie de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. À Paris, les visages que l'on voyait étaient toujours plus ou moins les mêmes. De plus, là j'étais le mari de Léa Lambert. Les gens ne s'intéressaient pas à moi, mais à elle, ce qui m'allait parfaitement, vu ce que j'avais à cacher. Plus je passais inaperçu, moins je risquais de devoir donner des explications. Nous semblions aux yeux de tous un couple parfait, et je dois avouer que Léa mettait énormément d'ardeur en public pour le démontrer. J'aimais être invisible, et je ne voulais absolument pas sortir de mon brouillard protecteur. Si je l'avais fait, j'étais convaincue qu'il me serait arrivé quelque chose de grave. Je n'irais pas à cette soirée. J'étais désolée de décevoir Hélène, mais tout cela était au-dessus de mes forces. J'avais déjà employé cette expression avec Michael aujourd'hui, et je me répétais que c'est ainsi que je me sentais. Sans force aucune, sans envie d'affronter de nouveaux problèmes, et encore moins de résoudre les anciens.